affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Voici maintenant un peu plus de 3 mois que l'actualité française et mondiale est dominée par la pandémie de Covid-19 et que tout naturellement, chacun cherche à s'informer sur celle-ci, sur les risques encourus, sur les mesures individuelles ou collectives à prendre pour se protéger, sur les traitements disponibles, sur les perspectives de découverte d'un vaccin. Reconnaissons que ce fut, pour les non-spécialistes, une quête un peu désespérante, tant nous avons été confrontés à une masse d'informations sans précédent, souvent évolutive, pour ne pas dire contradictoire, à des controverses et des débats pollués par des arrière-pensées politiques, des rivalités géopolitiques, des présupposés idéologiques. À l'évidence, la pandémie de coronavirus a aussi créé une pandémie d'informations, pas moins virale et contagieuse que le virus lui-même, si bien qu'il devenait très difficile de démêler le vrai du faux, mais aussi tout simplement le certain de l'incertain. Cette pandémie informationnelle n'est pas sans conséquences. Elle suscite du désarroi et de la défiance. Pour ne prendre qu'un exemple, selon un récent sondage, réalisé par l'Institut IFOP, 80% des Français estiment que le gouvernement leur a caché des informations sur la crise. Dans un tel contexte, il est donc tout à fait précieux de pouvoir s'appuyer sur des institutions sérieuses et indépendantes, capables de délivrer une information fiable. L'Académie des sciences fait bien sûr partie de celle-ci, c'est pourquoi elle a pris un certain nombre d'initiatives dédiées au Covid-19, avec un triple objectif, répondre, réagir, informer. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Pascale Cossard, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, professeure à l'Institut Pasteur et fondatrice d'une nouvelle discipline baptisée microbiologie cellulaire, pour qu'elle nous explique le dispositif mis en place par l'Académie pour suivre le virus et informer les décideurs et la population, pour qu'elle nous présente les principales conclusions des chercheurs mobilisés dans ce cadre, et enfin pour tirer quelques enseignements de cette crise sur le rapport que nous avons à la science et au statut de l'expertise dans notre société. Madame, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Pouvez-vous tout d'abord nous présenter le dispositif que j'évoquais, ce dispositif de suivi du Covid-19 mis en place par votre académie?
Alors, au moment où l'académie a réalisé qu'il y avait une épidémie qui arrivait, c'est-à-dire début mars, fin février, début mars, ce que nous avons déjà fait à ce moment-là, c'est d'inviter quatre spécialistes, à venir le mardi 10 mars, nous faire une conférence pour nous faire un peu l'état des lieux. Et cette conférence a été extrêmement informative et extrêmement décisive dans la fermeture de l'Institut à tous les agents et membres de l'Institut, c'est-à-dire que toutes les académies se sont mises en dispositif de confinement, si on peut dire. Et suite à ce confinement, nous étions bien sûr chez nous en train de travailler de façon diverse. Et très rapidement, il m'est apparu qu'il fallait qu'on crée ce que j'ai appelé une cellule de crise Corona pour que nous puissions être en mesure, comme vous l'avez dit, de répondre, réagir et informer le grand public. Et pour pouvoir répondre, réagir et informer, il fallait que nous-mêmes soyons sur des bases très solide. Donc j'ai constitué un groupe, cette cellule de crise, un groupe d'une dizaine de personnes, et je leur ai demandé de rédiger des fiches sur les différentes facettes de la maladie, en commençant par le virus, les tests, la réponse immunitaire, la sérologie, différents aspects. Et ce qui a été absolument extraordinaire, c'est que chacun a joué le rôle, a vraiment accepté de faire ce petit travail, si on peut dire. Et donc, nous avons constitué des fiches que nous avons rediscutées. Nous le rediscutons toutes les semaines. Et nous les avons mises maintenant sur le site web de l'Académie avec l'idée que chaque fiche d'expert serait transformée en fiche grand public pour que sur le site de l'Académie, il y ait justement ces fiches de spécialistes et ces fiches pour le grand public. Donc ça a été une première observation, jusqu'au moment où finalement Madame Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et puis Xavier Darcos, le chancelier de l'Académie, m'ont suggéré de refaire cette séance du 10 mars, que j'ai trouvé vraiment une très bonne idée. J'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. L'après-midi, nous avions la réunion de la cellule de crise. Jean-François Bach m'a fait la même réflexion. Et du coup, j'ai mis en place cette séance qui a eu lieu le 7 mai, il y a exactement une semaine, où, au lieu de parler de l'épidémie, on a voulu parler des sujets qui tracassaient les gens, c'est-à-dire les tests, le vaccin, les médicaments, le traçage qu'on commençait à discuter, la comparaison de ce qui se passait en France par rapport aux autres pays européens, et puis de parler un tout petit peu aussi de finalement ce déconfinement. Et donc, je pense que ça a été un grand succès puisque cette conférence a été reprise, comme je le disais à l'instant, 50 000 fois sur la chaîne YouTube, et je ne sais même pas les chiffres sur le site de l'Académie. Donc, je crois que c'était vraiment important que l'Académie, en tant que compagnie formée de membres qui sont reconnus par, disons, par les pairs, puisse avoir une parole publique. Vous remarquerez que nous avons été relativement discrets, puisque nous n'avons pas publié des avis toutes les semaines, comme d'autres académies qui sont d'ailleurs mieux placées que nous pour le faire. Mais nous avions publié simplement un avis sur le traçage récemment. Donc, je pense que cette séance a été extrêmement importante pour montrer au grand public qu'il y a des faits qui sont là, il y a des doutes qui sont là, des doutes sur la connaissance de ce virus et de cette maladie, et que l'on avance. On avance sur certains aspects relativement vite, sur d'autres aspects beaucoup plus lentement, mais c'est le cas de la recherche en général. On avance. Et puis, on fait le bilan et on avance dans une autre étape.
Alors, justement, peut-on peut-être commencer par passer en revue les différents points abordés lors de cette séance, et puis aussi ce qui est sûr ou incertain pour chacun d'entre eux, s'agissant des tests. Enfin, je ne sais pas, quel est le sujet que vous voulez aborder en priorité pour nos auditeurs ?
Oh, mais ça...
Les avancées, les doutes.
Non, mais les tests, c'est très facile. Hein. Alors, vous avez les tests qui identifient le virus. Je pense que ces tests sont extrêmement fiables. Alors, quand on me dit 30%, il y a quelquefois des gens qui disent qu'il y a 30% de faux négatifs. Ce ne sont pas des faux négatifs. Ce sont des résultats qui sont négatifs dus à la difficulté du prélèvement. Ces prélèvements qui se font au fond du nez sont assez difficiles. Et quand on est dans une situation comme le début de l'infection, ou quand on est dans une situation où il y a peu de virus parce que, justement, on est en présence de quelqu'un qui réagit extrêmement rapidement, on arrive à une situation de test négatif, mais le test lui-même est vraiment fiable. Ensuite, on a ce qu'on appelle la sérologie, c'est-à-dire l'identification des anticorps qui ont été produits par les différents individus qui ont vu le virus. Donc, ces tests sont maintenant bien au point, on sait identifier les anticorps, on sait qu'il y a des anticorps qui sont les détecteurs de l'infection, et on sait qu'il y a des anticorps qui sont protecteurs. Mais cette maladie est nouvelle, donc on n'a pas le recul suffisant pour savoir si on est protégé pendant 6 mois ou pendant 1 an. Cette maladie est là à peine 3 mois. Donc, on ne peut pas demander à des chercheurs, on ne peut pas demander à des médecins, on ne peut pas demander à des gens qui ont mis au point ces tests des réponses qu'on ne peut pas donner. Si on vous dit, est-ce qu'on est protégé pour pendant 3 ans ? Mais la maladie, elle est trop récente, donc on ne peut pas donner ces réponses. Et ça, quelquefois, dans le grand public, les gens sont un tout petit peu suspects sur ce qu'on dit. Il ne faut pas être suspect, c'est la réalité. Et c'est tout. Donc, voilà pour les tests.
Les principales controverses sont portées sur le sujet suivant, à savoir les médicaments, les traitements possibles. Il y a un exposé qui a été fait par Patrick Couvreur, professeur émérite et membre de l'Académie des sciences à ce sujet. Pouvez-vous nous en donner les principales conclusions pour éclairer les controverses et les difficultés rencontrées à ce sujet ?
Alors, je pense qu'il a très bien exprimé le fait que pour qu'un médicament soit accepté sur le marché, ça prend un certain temps. Il faut une autorisation de mise sur le marché. Donc, les médicaments qui sont testés à l'heure actuelle, ce sont des médicaments qui sont utilisés dans d'autres cas et qui sont déjà possiblement, qui pourraient être mis sur le marché sans autorisation. Donc, on les teste, ces médicaments, et on essaie de voir s'ils sont fonctionnels. Pour le moment, on se rend compte qu'il n'y en a aucun qui sont, pour le moment, vraiment très, très efficaces. Alors, les médicaments contre des infections virales, ils sont de différentes catégories. Soit on empêche le virus d'atteindre sa cible, donc souvent ce sont des anticorps qui sont contre le récepteur du virus. Soit on a des médicaments qui empêchent le virus de se multiplier une fois qu'il est dans une cellule. Et là, on utilise les médicaments qui ont été utilisés pour d'autres virus, mais c'est à l'état de test. Et soit on a des médicaments qui empêchent cette flambée immunitaire qu'on a au jour 9 de l'infection. Et là encore, on en est au test. Parce que on veut faire des tests pour ce type de choses, justement pour le dernier exemple que je viens de citer, il faut avoir différents contrôles. Et les contrôles, c'est quoi? Ce sont des patients qui ne reçoivent pas ce médicament et des patients qui le reçoivent. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir des patients qui sont pris au même stade de la maladie, etc. Il faut avoir un nombre suffisant. Et pour le moment, on n'a pas la réponse.
On a le sentiment, en vous écoutant, qu'il faut peut-être rappeler que la médecine, c'est une science, mais c'est aussi un art, n'est-ce pas?
Oui, enfin, moi, je ne qualifierais pas ça d'art, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas des réponses qui sont oui, non. Parce qu'une maladie, on le sait, dépend de l'agent pathogène, elle dépend du virus, mais elle dépend aussi de la personne et de l'individu. Et un seul virus va donner chez différents individus des maladies à différentes intensités et aussi différentes formes de maladies. Et c'est une des choses qui caractéristique ce virus, c'est qu'on a eu différentes formes de début de maladie surtout. C'est-à-dire qu'on a eu par exemple des cas où il y avait perte de goût, perte de l'odorat. On a eu des cas où il y avait des diarrhées, et puis on a eu des cas où il y a eu cette toux sèche dont on a beaucoup parlé au début. Donc vous voyez, il y a une variété de cas cliniques, de formes cliniques qui sont dues au fait des différences entre les individus, mais qui sont dues aussi au fait que le virus a des récepteurs sur différents endroits du corps, et pas seulement dans les poumons. Et peut-être que ces récepteurs sont exprimés à différentes intensités dans les différents endroits du corps des différents individus. Et c'est pour ça que la situation est complexe.
On parle aussi beaucoup de mutations du virus. On sait un petit peu plus à ce sujet. J'ai lu ici ou là qu'il y avait une capacité de mutation assez importante et que notamment des gens se rendaient compte que la souche américaine, pour ne prendre qu'un exemple, n'était pas la même que la souche européenne.
Non, il n'y a pas eu...
Vous nous éclairez sur ces questions.
Non, on commence à avoir des séquences, c'est-à-dire la structure du génome du virus des différentes souches. Et on ne peut pas dire que c'est un virus qui mute beaucoup. C'est un virus qui a muté un tout petit peu. Et on considère que, par exemple, entre la sortie du virus à partir des chauves-souris vers l'homme, on a eu un certain nombre de mutations qui se sont produites. Donc, on a maintenant un virus qui est différent de ce qu'il y avait comme virus chez les chauves-souris. Mais les mutations qui se passent, ou en tout cas les changements qu'on détecte à l'heure actuelle entre la souche qui était par exemple en Chine et une souche qui est en France ou une souche qui est aux États-Unis, ce sont des mutations qui sont extrêmement faibles et restreintes. Pour le moment, on ne peut pas tirer de conclusions précises.
Très bien. S'agissant des vaccins, car bien entendu, c'est un sujet important, c'est celui qui va probablement déterminer pour une grande part, probablement, enfin, on imagine pour une grande part, le retour à une vie réellement normale, vie sociale et économique normale. Où en est-on dans la recherche de ces vaccins? Et à quelles grandes règles, surtout, obéit la recherche d'un vaccin?
Bon, d'abord, pour qu'on puisse penser qu'un vaccin va être efficace, il faut savoir si une infection chez quelqu'un protège complètement de la maladie. Ça, c'est très clair. Il y a des maladies où on sait qu'on peut être réinfecté, et on n'est jamais protégé. Donc, déjà ça, on ne le sait pas vraiment.
Bon, on manque de recul nécessaire, c'est ça?
Exactement. Donc, déjà ça. Mais quand même, on connaît d'autres coronavirus. Il y a par exemple un vaccin contre un coronavirus animal qui fonctionne. Donc on peut penser qu'il y a de l'espoir du côté du vaccin. Ensuite, on ne sait pas encore précisément, mais presque, quels sont les anticorps qui sont vraiment protecteurs, c'est-à-dire les anticorps qui empêchent in vitro le virus, par exemple, de rentrer dans des cellules. Donc, on avance de ce côté-là, mais on n'est pas encore complètement sûr. Ensuite, il faut aussi voir que le vaccin est fait, en général, en produisant les protéines qui vont, chez un individu vacciné, susciter une immunité contre le vrai virus qui va arriver. Bon, eh bien, on produit ce vaccin, mais on le produit, par exemple, dans un autre virus qui n'est pas du tout nocif, comme le virus de la rougeole ou un adénovirus. Mais il faut faire des tests qui sont très longs. Donc, le premier test, c'est de mettre ça chez un individu qui n'est pas du tout malade et voir comment il reçoit ce vaccin. Donc, ça prend quelques mois. Ensuite, il faut tester différentes choses, c'est-à-dire de voir s'il produit suffisamment d'anticorps. Enfin, il y a des tas d'étapes qui ont été très bien expliquées par Frédéric Tanguy, qui a présenté l'exposé, et qui montrent que ce n'est pas en 3 mois qu'on va avoir un vaccin. On n'aura pas de vaccin disponible sur le marché avant 2021. C'est absolument clair. Donc, ça veut dire que, il faut attendre. Et enfin, il y avait un petit doute sur le fait que ce vaccin pourrait avoir des effets qu'on ne souhaite pas. On a eu, par exemple, l'expérience d'un vaccin contre la dengue qui avait fait que des enfants qui avaient été vaccinés, une fois qu'ils ont vu le virus arriver, une fois qu'ils ont été vraiment infectés par le virus, sont morts de ce virus. Donc, il faut faire très attention. Il faut prendre toutes les précautions pour mettre un vaccin sur le marché.
Janvier 2021, c'est toutefois relativement court. Car, lors de son exposé, Frédéric Tanguy nous expliquait que les étapes de développement d'un vaccin, lorsque nous sommes dans une situation moins urgente, c'est plutôt 8 ans en moyenne, allez, de 6 à 15 ans, c'est ça?
Oui, mais enfin bon, là, ça dépend, parce que là, on va voir comment les choses se passent. Je pense qu'on peut rien. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y aurait rien avant janvier 2021.
Mais... Oui, on ne peut pas donner de date précise, mais je voulais préciser cela pour bien être clair. Tout est mis en œuvre pour aller le plus vite possible, mais en respectant les protocoles et en prenant les précautions nécessaires. Je dis cela parce qu'on entend souvent une série de critiques disant « Oui, mais en temps de crise, il faut lever les protocoles habituels, car le propre même d'une crise, c'est de bouleverser les protocoles. » Bon, oui, en l'occurrence, il y a une vraie accélération néanmoins.
Oui, mais l'accélération, elle n'est pas de brûler les étapes. L'accélération, elle est par exemple. On dit, on va fabriquer une certaine quantité de vaccins et on va tester son innocuité. Donc, voilà. Et on n'attend pas les résultats de cette innocuité pour reproduire une quantité de vaccins pour la deuxième étape. Donc, on raccourcit les étapes en se disant, si ça marche, on aura ce qu'il faut pour démarrer tout de suite.
C'est ça. Et sinon, on les met à la poubelle et on recommence.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais, c'est là qu'on mène de front plusieurs étapes de façon à être prêt à chaque fois au bon moment. D'accord, c'est compris. Donc, on accepte un éventuel gaspillage pour gagner du temps.
Voilà, c'est plutôt, c'est pas du vrai gaspillage, mais c'est, disons, on mène de front les deux étapes, mais pas du tout en pensant que la deuxième étape sera entamée si la première étape ne marche pas.
Alors évidemment, puisqu'il s'agit d'une pandémie, il y a aussi un aspect épidémiologique très important, au-delà de l'aspect médical stricto sensu. Un exposé était consacré, et là on va toucher du doigt le problème des données, un exposé de Dominique Castagliola, directrice de recherche à l'INSERM, qui a expliqué la façon dont il était compliqué de comparer les réponses données par tel ou tel pays à cette crise et d'en tirer des conclusions qui, selon elle, seraient prématurées aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ces travaux et s'appuyer sur ceci pour nous expliquer la complexité quand même de la compréhension de cette épidémie?
Ben oui, parce qu'en fait, si vous voulez, d'abord, les pays n'ont pas le même genre, le même nombre d'habitants. Donc, si on considère qu'un pays a un certain nombre de morts, par exemple, par rapport à un nombre d'habitants, bon, ben, c'est une façon de mesurer l'intensité de la maladie. Mais ensuite, on peut se poser la question, comment le nombre de morts a été calculé? Alors, vous avez des gens qui vont calculer le nombre de morts en mars, avril, et puis vous avez des pays qui vont calculer le nombre de morts de cette année par rapport à l'année dernière. Donc, il faut voir si ce sont des morts additionnelles ou si c'est un taux global. En même temps, au mois de mars et au mois d'avril, en France ou dans n'importe quel pays, on a eu les morts du Covid, mais on a eu aussi les morts des autres infections. Et d'ailleurs, on peut aussi penser que les morts, par exemple, dans les EHPAD, même s'ils avaient été provoqués par le Covid, pouvaient être dus aussi à des morts dues au fait qu'on avait des gens fragiles qui, à la première infection, allaient mourir. Donc, c'est extrêmement complexe et c'est très, très, très difficile de comparer l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la France, parce que justement, les façons de compter les infections, de compter les morts, sont très différents dans tous les pays. Donc, je pense qu'il faut attendre pour pouvoir décider que la stratégie utilisée en Allemagne était mieux que celle qui avait été utilisée en Italie, que celle utilisée en France. En plus, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, l'épidémie, elle démarre à un endroit et il y a des pays qui ont eu plus de chance que d'autres. On peut dire que si vous avez des jeunes skieurs qui rentrent d'Italie et qui sont en bonne santé et qui arrivent en Allemagne et qui ont été sans doute les premiers cas en Allemagne, c'est pas pareil que d'avoir des personnes qui sont en train de se réunir dans une salle très confinée où il y a tous des gens qui sont là, pas forcément des gens jeunes qui ont été skier en Italie, etc. Donc, quand le premier foyer arrive, ou les premiers foyers arrivent, ils sont extrêmement importants. Et peut-être qu'en France, la situation était complètement différente de ce qui s'est passé en Italie ou en Allemagne. Donc, je pense qu'il faut attendre pour tirer des conclusions et non pas dire on aurait dû faire ci ou on aurait dû faire ça. Donc, je suis un tout petit peu mitigé de ce côté-là.
Oui, sans compter qu'au-delà de la façon de compter qui est évidemment déterminante, parce que une façon de compter détermine aussi le résultat, bien entendu, mais la situation des pays n'est pas la même non plus. On imagine qu'un pays avec une forte densité de population, comme par exemple la Belgique, va avoir des difficultés bien plus importantes qu'un pays dont la densité de population est bien plus faible. Tout cela joue aussi, c'est-à-dire que la réponse, c'est comme pour les patients, vous avez dit tout à l'heure, eh bien, les patients réagissent de différentes façons selon, j'imagine, leur physiologie ou d'autres critères. On pourrait en dire de même des sociétés et des États, non ?
Oui, je pense qu'il y a une situation à l'heure actuelle qui est extrêmement intéressante pour le chercheur, c'est la situation en Afrique, où on s'aperçoit que tout au début, on avait peur qu'il y ait vraiment une épidémie ravageuse, on peut dire, et plus le temps avance, et plus on se rend compte que l'épidémie n'aura sans doute pas la même intensité qu'elle a en Europe. Pour une raison qui est, à mon avis, extrêmement claire, c'est que la population, l'âge moyen de la population est beaucoup plus bas en Afrique qu'en Europe. Et on a donc des individus qui sont beaucoup plus résistants à l'infection, comme on le voit en Europe. Donc, je l'espère qu'en Afrique, on n'aura pas, la catastrophe que nous voyons en Europe.
Alors, puisque nous avons commencé à évoquer les stratégies, la comparaison des stratégies et la nécessité toutefois de ne pas en tirer de conclusions hâtives. Venons-en à cet aspect qui à la fois inquiète et suscite beaucoup d'espoir, et qui est le recours aux technologies numériques pour tracer les malades et essayer d'isoler les éventuels foyers de contagion. Et donc, à la fameuse application Stop Covid qui devrait sous peu accompagner notre déconfinement en France. Quel est votre avis sur cette question ?
Alors, mon avis, il a changé. Il a changé parce que j'ai réagi comme, on va dire, le français moyen, tout au début, parce que je ne savais pas ce dont il s'agissait exactement. Et je n'avais pas envie d'être tracé, si on peut dire, et d'être espionné dans ma vie privée à cause de cette épidémie. J'ai complètement changé. C'est-à-dire qu'en fait, en essayant de comprendre comment ça marche, et je pense que la prestation d'Olivier Faugeras est extrêmement claire, il n'y aura pas de géolocalisation des malades, Il n'y aura pas de nomination des malades par ce système. Il y aura simplement un système qui fait que si on est volontaire pour participer à ce système, on pourra savoir si on a été en contact avec un malade et on pourra faire savoir qu'on est malade et que ce serait mieux que les gens qui ont été en contact avec moi, avec nous, le sachent. Donc, écoutez la prestation, l'intervention de Olivier Faugeras, et je pense que c'est un système qui sera de toute façon très informatif. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura le plus grand nombre qui vont l'utiliser, mais même si on a un petit nombre, je pense que ce sera important. Donc là encore, on a la démonstration qu'il faut quand même savoir un petit peu comment ça marche pour comprendre et pour prendre un tout petit peu des dispositions. Donc je voudrais quand même bien être clair, c'est que nous n'avons pas donné des directives, mais nous donnons un avis positif sur ce type de technologie qui pourrait être une des pierres dans l'édifice de la lutte contre le COVID-19.
Oui, ce n'est pas une injonction, ce n'est même pas un avis au sens strict du terme, mais ce sont des éléments pour se faire un jugement éclairé, et c'est le principe même de cette application, c'est qu'ensuite son utilisation relève de la libre décision de chacun. Donc écoutez, avant de prendre cette décision, chers auditeurs, allez voir sur le site de l'Académie des sciences les explications données par Olivier Faugeras. Et ça nous mène au point clé, finalement. On voit qu'à la frontière des décisions individuelles et des mesures publiques prises pour contrecarrer la diffusion de cette maladie, il y a un certain nombre de stratégies. Ça a été l'intervention conclusive de votre journée, réalisée par Arnaud Fontanet. Et là, on réalise quand même qu'on va en avoir, disons les choses clairement, probablement, sauf disparition, j'allais dire miraculeuse, du virus sous l'effet de l'été ou autre, on va en avoir probablement pour un petit moment, quelles que soient les stratégies choisies. C'est bien cela ?
Je pense qu'on ne peut pas prédire la fin d'une épidémie. Ça, c'est clair. Quand vous regardez un tout petit peu ce qui s'est passé sur les différentes épidémies, elles finissent par disparaître plus ou moins rapidement, de façon plus ou moins surprenante, mais elles finissent par s'arrêter, hein, c'est clair. Donc, il y a différents facteurs qui vont jouer. Comme vous l'avez dit, il peut y avoir le retour de l'été. C'est vrai que les maladies respiratoires, en général, diminuent au moment de l'été, mais réapparaissent. Je pense que pour le moment, on est dans l'expectative. Je pense qu'Arnaud Fontanet a voulu dire qu'il y avait des possibilités de deuxième réapparition, il y a possibilité de nouvelles vagues, mais je pense qu'il ne faut pas exclure aussi que ça pourrait disparaître. Moi, je suis plutôt, à l'heure actuelle, dans une position où je me dis que finalement, ça pourrait très bien être une diminution du nombre de cas qui ferait que... on va avoir une période peut-être un peu plus tranquille, mais avec un retour qui ne va peut-être pas arriver au moment où on s'y attend, qui pourrait être peut-être après l'été, au moment où les gens sont un peu plus confinés, sont un peu plus les uns sur les autres, ont des infections pulmonaires dues à autre chose, qui fait qu'on aurait une situation un peu plus favorable à un retour du coronavirus. C'est sûr que toute la population n'est pas encore... immune, c'est sûr que toute la population n'a pas vu le virus, vous avez vu les chiffres, ils sont extrêmement bas, ça dépend des régions, il y a des régions où on pense qu'il y a 4% de la population qui a vu le virus, en Ile-de-France on est certainement aux environs de 10%,
Arnaud Fontanet parle d'une population déjà infectée en France qui serait de l'ordre de 5,7%, or pour avoir une immunité collective, il faudrait 70%, on en est loin.
Oui, mais enfin ça, c'est, disons, ce qu'on espère. C'est ce qu'on espérerait si tout le monde était vacciné et immunisé. Peut-être qu'avec une immunité de groupe qui serait à 40 ou 50%, peut-être que l'épidémie serait disparue. Je pense que là, on est dans des espoirs, on est dans des projections. Attendons de voir.
Alors précisément, en termes de stratégie, je voudrais qu'on l'aborde pour montrer la difficulté quand même, parce que... Je peux comprendre la colère, l'exaspération, ou liée aussi aux difficultés que cela entraîne à tous les plans, personnels, économiques, colère contre, je voulais dire, contre nos dirigeants, les décideurs en général, Mais l'exposé d'Arnaud Fontanet met bien le doigt sur la difficulté qu'il y a à choisir une stratégie idéale, car parfois, eh bien, il n'y a pas de stratégie sans coût. Il expose notamment une des possibilités qui est dite du, j'ai envie de l'appeler, de mot anglais, désolé, stop and go, d'alternance de phases de confinement et de déconfinement, de façon à atteindre cette immunité de groupe, sans jamais mettre le système de santé sous trop de pression. C'est bien cela ? C'est l'une des stratégies possibles ?
Oui, bah, j'espère que ça ne va pas arriver. Je vais vous dire très franchement, je trouve que ce serait vraiment très, très, très désagréable de pouvoir, d'entendre les pouvoirs publics nous dire « bon, bah, finalement, vous restez tous chez vous pendant un certain temps et puis on redémarre après, etc. » Franchement, j'espère que ça ne va pas arriver. Évidemment, les études montrent que ça pourrait se faire comme ça, mais j'espère que ça ne va pas se faire comme ça, franchement.
Oui, c'est-à-dire que l'espoir, si j'ai bien compris à l'issue de l'écoute de son exposé, c'est que, et ce serait la stratégie française, c'est de maintenir des mesures, non pas de confinement, mais de distanciation telles qu'on reste à un niveau acceptable de contamination jusqu'à l'arrivée du vaccin, qui est l'autre solution pour avoir une immunité collective.
Non, on a dit qu'il faudrait des médicaments et des vaccins, ça c'est clair. Mais je pense aussi qu'il y a une chose qu'il faut dire, et là, ça c'est peut-être Pascal Bossard qui parle, je pense que ce serait bien aussi de dire et redire que les Français doivent être responsables. Je pense que ce n'est pas assez dire. Moi, j'ai confiance quand même dans les gens. Si on leur explique qu'il y a un virus qui est quand même très nocif chez certains individus, on peut responsabiliser un peu plus les gens leur expliquer très bien ce qui peut se passer. Donc, évidemment, les menacer de confinement et reconfinement et reconfinement à répétition, c'est une façon. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans une phase où il faudrait expliquer aux gens que c'est eux qui vont faire le futur de la maladie. Et je serai pour une politique d'information vraiment très soutenu pour expliquer qu'on ne peut pas prévoir bien. Et donc, une solution, c'est que si les gens font vraiment attention, eh bien, on y arrivera tous ensemble. Et c'est pour ça que l'Académie souhaite informer le plus précisément possible. Et informer, ça veut dire on n'a pas de réponse de ce côté-là, on a des réponses de ce côté-ci. C'est vraiment la position que j'ai. Et plus on va avancer, plus on pourra essayer d'informer le public. Et c'est là notre rôle à l'Académie des sciences, c'est de vraiment essayer d'être un peu les transmetteurs du savoir entre ceux qui font et ceux qui vont devoir prendre des décisions politiques, ceux qui font la recherche.
Pour éclairer cette réflexion et en appeler à la responsabilité individuelle, ne faut-il pas aussi peut-être parallèlement, là c'est un travail de fond, mais auquel vous vous consacrez tout au long de l'année avec de nombreuses manifestations d'ailleurs grand public, destinées y compris d'ailleurs aux plus jeunes, développer l'éducation scientifique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus et beaucoup de désarroi qui étaient dus au fait qu'on comprend finalement assez mal ce que sont les sciences, les réponses qu'elles peuvent apporter, et le doute et les remises en cause des théories établies que nécessite justement l'esprit scientifique. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que dans le public, et c'est normal en temps de crise, on souhaite des réponses extrêmement tranchées, blanc ou noir, des directives extrêmement claires, ce qui est légitime, mais que malheureusement ce n'est pas toujours possible, surtout s'agissant d'une maladie nouvelle, bien entendu.
Oui, alors, c'est toujours le grand problème de la relation entre la science et la société et de l'éducation scientifique de la société. Peut-être que un des bienfaits de cette crise fait que le grand public se dit que les scientifiques, ils ont des clés pour comprendre, ils ont le moyen d'informer, que les scientifiques jouent un rôle dans l'évolution de la politique sanitaire, etc. Mais quand je dis qu'il faut informer le grand public, il faut informer aussi les politiques. On a beaucoup d'hommes politiques qui n'ont pas de formation scientifique. Et je pense qu'un des bienfaits de cette pandémie, c'est de se rendre compte qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de liens entre les politiques et les scientifiques. Et il faut que les scientifiques parlent, mais il faut aussi que les politiques écoutent et aient envie d'entendre. Alors évidemment, quand on a une situation de crise, on a envie d'entendre. On a envie d'entendre de tous les côtés. On a eu l'impression qu'il y avait même presque une cacophonie. Mais je pense que ça, c'est très, très important. Il va falloir qu'il y ait de plus en plus d'émissions scientifiques, de films scientifiques, d'interactions entre scientifiques et grand public. Je suis la première à vraiment vouloir le faire, parce que je pense que c'est très important. Mais il ne faut pas que ce soit les gens qui ne savent pas qui se mettent à parler à la place des scientifiques. Ça, c'est vraiment, vraiment très délétère. On a des gens qui proclament des choses alors qu'ils ne savent pas. Donc, le scientifique, en général, est quelqu'un qui, en tout cas, je l'espère, dit ça, ce sont des faits, et ça, ce sont des supputations, des suppositions, des hypothèses de travail que l'on est en train de vérifier ou de tester.
C'est l'avantage des scientifiques, c'est que le scientifique sait, mais surtout, il sait aussi lorsqu'il ne sait pas. Il est parfois conscient de ne pas savoir.
Oui,
c'est évidemment une grande différence.
Oui, et on peut dire que le public n'aime pas quand le scientifique dit « je ne sais pas à cet endroit-là ». Mais c'est ça la recherche scientifique, on est toujours à la limite des connaissances et on essaie d'avancer. Mais il n'y a rien de mal de dire qu'il y a du doute dans certaines choses.
Oui, écoutez, il y en a même dans la foi, donc c'est dire. Il y en a d'autant plus dans la science et il faut savoir l'accepter. En vous écoutant, ça peut faire office de conclusion. Il faut évidemment que les pouvoirs publics se lancent dans des initiatives d'éducation des connaissances scientifiques et d'un esprit scientifique dans la population. Mais là aussi, la responsabilité individuelle peut jouer. Chacun peut se prendre en main. Les outils et l'information disponibles et fiables existent. Et il existe notamment sur le site de votre académie, qui a été remodelé voici quelques années, dans le but de diffuser de l'information très accessible au grand public. Et donc, j'insiste pour que l'ensemble de nos auditeurs, non seulement écoutent Canal Academy, mais se plongent dans votre site internet, qui est vraiment une mine d'informations sur tous les sujets et pour tous les âges, et y compris pour ceux qui n'ont pas d'ores et déjà une formation scientifique. Les prérequis sont très variables. Donc, voilà, je ne peux me faire que le relais de ces initiatives.
C'est très gentil, merci beaucoup. Je dois dire que je suis en train d'écrire un livre grand public qui va essayer de répondre à toutes ces questions et j'espère qu'on pourra en parler une prochaine fois.
Écoutez, volontiers, et j'espère cette fois dans le studio avec certainement une meilleure qualité sonore et voilà, d'autres configurations qu'on souhaite à toute la population. Merci beaucoup Pascal Cossard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et je vous dis donc à bientôt.
Merci.
Thank you.